Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
18h40, on défait le monde, ça y est, dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, l'info autrement. C'est jusqu'à 19h et voici le menu avec vous Cyprien.
Ce soir, on défait la Coupe du Monde au Qatar. Alors que beaucoup de voix s'élèvent à 2 mois de l'événement, retour en arrière, vous allez découvrir la véritable histoire de l'attribution du Mondial 2022. Au menu également des oiseaux australiens qui attaquent les champions de cyclisme, des bombes dédicacées en Ukraine et le champion du monde de paella. Il est français et il met du foie gras dedans. Oh. Allez, on défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
C'était le jeudi 2 décembre 2010. Sepp Blatter, à l'époque président de la FIFA, annonce que c'est le Qatar qui organisera la Coupe du Monde 2022. 12 ans plus tard, et à 2 mois de l'événement, des voix s'élèvent. Pourtant, c'est pas comme si les problèmes posés par cette attribution étaient nouveaux. Alors, avec l'équipe dont défait le monde, retour en 2010, on a voulu remonter aux origines de cette décision.
Comment le Qatar a réussi à obtenir l'organisation de la Coupe du Monde? Qu'est-ce qui a amené la FIFA à effectuer un tel choix? Et qu'est-ce qu'on en disait à l'époque?
Pour le savoir, on a contacté l'un des plus fins connaisseurs du dossier, c'est Antoine Greenbaum. Il est journaliste indépendant, auteur notamment de Président Platini, c'est chez Grasset. Et alors, on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais au départ, quand le Qatar décide d'être candidat, eh ben à la FIFA, tout le monde s'est marré.
Quand ils se présentent, personne ne pense qu'ils vont obtenir la Coupe du Monde. Sepp Blatter, qui à l'époque était le patron de la FIFA, dès le début, il n'a jamais cru que cette candidature irait au bout. Sepp Blatter avait une idée en tête, qui était d'aller en Russie en 2018 et d'aller aux États-Unis en 2022. Et pas une seule seconde, il se disait que ce petit pays qui rentrait tout juste dans le monde du foot, qui était là depuis quelques années, qui avait certes beaucoup d'argent, y arriverait. Parce que lui maîtrisait son organisation de main de maître et arrivait à chaque fois à obtenir ce qu'il souhaitait.
Bon, alors comment les Qataris ont réussi à retourner la situation?
Eh bien, grâce à un stratagème extrêmement bien étudié qui a pris toutes les instances dirigeantes du foot complètement à revers.
C'est-à-dire que ça a démarré par des compétitions de jeunes qu'ils ont commencé à organiser dans les années 90. Et puis ensuite, il y a eu cet homme, donc, Mohamed Bin Hammam, qui est devenu président de la Confédération Asiatique de Football, puis vice-président de la FIFA. Et l'objectif, c'était d'entrer à l'intérieur de l'organisation pour pouvoir en connaître les rouages et savoir de quelle manière est-ce qu'on pouvait obtenir la majorité au sein du comité exécutif de la FIFA. À partir du moment où il drague différentes personnes en allant jusqu'à de la corruption, ils ont le pouvoir de l'argent, du gaz qui leur permet, via beIN Sports, de pouvoir devenir le premier financeur du football mondial par le biais des droits télé qu'ils achètent à la FIFA, à l'UEFA. Et à l'arrivée, il y avait donc une FIFA et une organisation du foot mondial qui était prise en étau, qui ne pouvait absolument plus rien faire.
La FIFA, candide, naïve et peut-être aussi un peu cupide, hein, s'est retrouvée complètement dépassée par la stratégie des Qataris.
Mais au final, il y a eu un vote, on l'a entendu, des instances dirigeantes pour départager les États-Unis et le Qatar. Est-ce qu'on sait qui a voté quoi à l'époque?
Alors, c'est ça qui est incroyable. 12 ans plus tard, à quelques exceptions près, le mystère demeure.
On connaît le résultat, 14 voix à 8 en faveur du Qatar face aux États-Unis. Ça, c'est officiel. Mais non, on ne sait absolument pas qui a voté. On a une idée par rapport à différentes enquêtes et que j'ai pu faire moi-même également sur le nom de certains Sud-Américains et d'Africains qui ont voté en faveur du Qatar. Mais Platini a été le seul à avouer publiquement.
C'était quoi leurs arguments à l'époque pour dire il faut le donner au Qatar, le mondial?
La première Coupe du monde arabe, c'est un argument qui fait sens. La Coupe du Monde, elle doit voyager, elle ne doit pas uniquement être organisée dans des pays occidentaux. Il y avait déjà eu la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, qui avait été une fête fantastique, la première Coupe du Monde en Afrique. Et la première Coupe du Monde du monde arabe, c'est une avancée.
Et au cas où vous poseriez la question, à l'époque, jamais, mais alors jamais, hein, l'argument écologique n'est entré en ligne de compte dans le processus d'attribution.
Voilà, du gazon au milieu du désert, l'écologie, les droits de l'homme, les conditions de travail, ça fait beaucoup parler à 2 mois de la compétition. On sera au Qatar dans le journal de 19h, vous le savez, 7 jours, 7 reportages consacrés à la Coupe du Monde de foot tout au long de la semaine.
RTL, sous les radars.
On défait maintenant l'info passée sous les radars.
Alors, depuis le début de l'offensive russe, on vous parle souvent de l'ingéniosité ukrainienne. Eh ben, nouvel exemple ce soir, Isabelle.
Oui, pour financer l'armée, un site propose d'écrire des dédicaces sur les bombes destinées aux Russes. On peut écrire « Gloire à l'Ukraine » ou « Pour Mariupol » ou mettre le drapeau ukrainien, ce que le site appelle des salutations chaleureuses à l'occupant. Niveau tarif, c'est $30 pour l'option la moins chère, un message tout simple, mais ça va jusqu'à $20 000 si on veut son propre panneau d'affichage personnel. L'objectif, c'est de récolter des fonds pour la fabrication de 4 drones de combat Punisher, des mini-drones là, qui permettent des frappes très très ciblées. Ça coûte quand même $50 000 pièce.
Étonnant comme processus. Ils en sont où ?
Et ils ont déjà récolté plus de $150 000 depuis le mois d'avril. Un premier drone a pu être acheté et aussi du matériel pour les soldats ukrainiens, des bottes, des lunettes de protection. Les messages, eux, ils sont affichés sur les obus fixés au drone. Et en plus de l'aspect financier, c'est un excellent défouloir pour les Ukrainiens. J'ai regardé sur le site Boomboard l'image du premier obus. On voit un Vladimir Poutine un peu en sale état. Et un petit marrant a écrit aussi « Salut les filles ».
Bon, c'est aussi ça la guerre 3.0. Allez, petite pause, on défait le monde, ensuite continue dans RTL Soir avec les invités surprises des mondiaux de cyclisme. Restez à l'écoute, c'est presque un film de Hitchcock. À tout de suite.
Oh, joli. Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
Eh ben oui, on défait toujours le monde dans RTL Soir à 18h49. Bonne fin de journée. Tiens, tendez l'oreille parce que ce soir, nos losers du jour sont confrontés quand même à un phénomène assez incroyable.
Oui, ce sont des losers qui n'ont vraiment pas de bol ce soir. Les coureurs et les coureuses des mondiaux de cyclisme en Australie, Isabelle.
Oui, les championnats du monde en Australie, c'était peut-être pas l'idée du siècle. D'abord parce que l'Australie...
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Ouais, enfin, c'est surtout loin. Résultat, les deux tiers des 100 meilleurs mondiaux n'ont pas fait le déplacement. Et ceux qui l'ont fait commencent à le regretter parce que niveau ambiance... C'est les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Oui, à l'entraînement, Evenepoel puis Mollema ont été attaqués par des volatiles déchaînés. Bah oui, même avec le casque, ça fait mal. Alors on pourrait dire, vraiment, c'est pas de chance. Bah pas du tout. L'oiseau, là, qui pourchasse les cyclistes, on le connaît bien.
Le cassican flûteur n'a rien d'un tueur enragé et sanguinaire.
Voilà, c'est le cassican flûteur qu'on appelle aussi pie australienne ou corbeau flûteur parce qu'il fait de jolies vocalises, mais ce n'est pas sa seule particularité. Le cassican, on le connaît surtout parce qu'il a...
mauvais caractère. Son plumage noir et blanc et son agressivité lui valent même le surnom d'orque volant.
Et oui, c'est pas un canari. Hein. Alors cela dit, on est assez injuste avec le cassican flûteur, je tiens à le dire. Il n'a pas un caractère de cochon, en fait, il protège son nid, ça peut se comprendre. Sauf qu'il protège aussi les alentours.
Une centaine de mètres autour du nid.
Ah, ah oui, 100 mètres, on est large. Hein. Mais il y en a tant que ça quand même, des nids de cassican?
Et en Australie, il y en a quasiment partout.
Ah bah. D'accord. Alors, attendez, une dernière précision.
Les premières victimes de ce courroux sont les cyclistes. Parce qu'ils se déplacent plus vite et semblent plus grands que les piétons, ils apparaissent comme une plus grande menace.
Voilà. Et d'après vous, c'est quand la nidification des cassicans flûteurs?
Donc
vraiment, le moment et l'endroit idéal pour organiser des championnats du monde de cyclisme. Alors les Australiens, eux, ils ont l'habitude. Chaque année, c'est la même chose.
The swooping season has begun.
Mais ça fait crier à la sweeping season, la saison des descentes en piqué. 90% des habitants se sont déjà fait attaquer en Australie. Ouais. Il y a un site internet avec les endroits à éviter et des panneaux un peu partout. Alors pour les coureurs, c'est un peu lunaire, comme Thomas Veuclair, rejoint par Nicolas Georgerot.
En gros, il ne faut pas regarder les oiseaux, il ne faut pas qu'ils se sentent observés, il ne faut pas partir en courant. Donc quand on fait un footing, c'est un peu compliqué. On a trouvé un peu bizarre les gens qui roulaient avec des cornes sur le casque. Et on a compris pourquoi.
Bah oui, parce
des
que du coup...
sur le casque.
Sur le casque, parce que pour se protéger, les cyclistes australiens ils transforment leur casque en épouvantail. Plus ou moins, j'en ai même trouvé un qui a bricolé un système avec un tuyau et des langues de belle-mère. Voilà, vous entendez le... Voilà, c'est demi-efficace, hein, je vous dis tout de suite. Alors, certains voient le bon côté des choses.
Ça vous oblige à pédaler de toutes vos forces. C'est excellent pour l'entraînement.
Ouais, bon, mais quand même, certaines personnes ont été sérieusement blessées. Donc, on va croiser les doigts pour nos cyclistes. Surtout pour Julien Alaphilippe, hein, qui a déjà eu toutes les misères du monde cette saison. Et puis, consolation, en 2027, les mondiaux, ce sera en France, en Haute-Savoie. Il n'y a pas de cassican flûteur en Haute-Savoie.
Trois attaques ont eu lieu à Dingy-Saint-Clair. Le loup a attaqué à 300 mètres.
Il y a des loups. Bon, allez, bah, bonne chance, les cyclistes.
Ça donne quand même très envie de regarder les mondiaux de cyclisme. Ouais.
C'est pas juste pour voir s'il y a les oiseaux qui arrivent dessus.
Le match des infos
pour briller au dîner.
Le face-à-face, Isabelle, Laurent, tous les coups sont permis dans la quête de la meilleure info pour briller au dîner.
Avec au niveau du score, Isabelle qui mène 9-7 face à Laurent. Je vous rappelle que vous aussi, hein, vous pouvez choisir l'info que vous avez préférée. Vous pouvez le garder pour vous, mais c'est pas grave. Laurent, on brille avec quoi ce soir grâce à vous?
Alors, vous allez pouvoir briller tout à l'heure pendant le match des Bleus avec le drapeau de l'Autriche, notre adversaire. Ce drapeau rayé rouge et blanc est l'un des plus vieux au monde parce qu'il est utilisé depuis le 12e siècle. À titre de comparaison, le drapeau français, c'est 1794, 1785 pour l'Espagne. Alors vous allez me dire, pourquoi rouge et blanc pour l'Autriche? Je vais vous répondre. Le rouge représente le sang du duc Léopold V lors d'une bataille et seule une bande blanche est restée sur ses vêtements sous sa ceinture d'épée, d'où ses couleurs sur le drapeau autrichien. Pas mal pour la mi-temps.
Pas mal. À vous, Isabelle.
Oui, elle est très forte et en plus, elle colle à l'actu météo du moment.
Mais oui, c'est l'automne demain, la saison des feuilles mortes qui se ramassent à l'appel. Vous connaissez la chanson. Eh bien, mon info pour briller, c'est qu'il existe 600 versions de cette chanson. Au départ, il n'y avait que la musique de Joseph Kosma, écrite en 1945 pour un ballet de Roland Petit. Puis Marcel Carné l'a voulu pour son film Les Portes de la Nuit. Alors, il a demandé des paroles à Jacques Prévert et c'est donc dans ce film qu'on entend Yves Montand qui la fredonne tout doucement pour la première fois. Aux États-Unis, ça devient Autumn Leaves, chanté notamment par Frank Sinatra. Since you went away, the days grow long. C'est devenu un standard du jazz. Iggy Pop l'a découverte comme ça, mais lui, il la préfère en français. Tous les styles, ouais, il est magnifique dans tous les styles, dans toutes les langues, 600 versions en tout.
Très joli, Autumn Leaves. Ça, c'est la petite sensibilité musicale qui parle. C'est pour ça que je vais donner le point à Isabelle.
Et votre sensibilité
autrichienne,
c'est plutôt guerrière là, en l'occurrence, dans votre anecdote. Allez, le point pour Isabelle ce soir. RTL Soir continue dans quelques secondes. À 19h, bien entendu, ce sera le journal. Mais juste avant, on va défaire votre monde avec un invité particulier, le champion du monde de la paella.
Paella. Je sais pas, je parle pas espagnol.
Bon, le champion du monde, il est français. Et on l'écoute juste après ça.
On défait le monde dans RTL Soir.
Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
Et on défait même votre monde dans RTL Soir, juste avant le journal. Vos projets, vos talents les plus fous, mis à l'honneur chaque soir.
Et comme nous sommes jeudi... Allez, va y avoir du sport. C'est jeudi sport. On parle de vos exploits sportifs les plus incroyables et les plus improbables avec ce soir... Ben, champion du monde, Laurent.
Ah oui, on en est fiers. La meilleure paella du monde est française. Oui, Eric vient de remporter le mondial. Bonsoir, Eric.
Bonsoir.
Vous avez terminé premier au World Paella Day Cup à Valence, en Espagne. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a fait la différence?
Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que la passion dans la cuisine, des bons ingrédients. La première paella que j'ai réalisée, c'est celle qui m'a permis de passer en finale. Donc, c'est une paella... de rascasse, pâte de poulpe et thon rouge. Et ensuite, en finale, si je passais, bien sûr, c'était une paella qui nous représentait, qui représentait la France. Donc, c'était avec des produits du sud-ouest. Voilà, donc j'ai fait une paella de confit de canard avec du cou de canard et des cœurs de canard farcis au foie gras.
Et c'est dingue quand même que ce ne soit pas les Espagnols qui gagnent. C'est comme si nous, on ratait le championnat du monde de cassoulet.
Peut-être, hein.
Oui. Peut-être.
Bon, les Espagnols, il faut savoir que dans le World Paella Day Cup, depuis qu'il a démarré en 2019, ils ont quand même gagné deux fois. Justement, l'année dernière, c'est Noia Pascual qui a gagné. Et ils ont décidé, je pense, ils ont très bien fait, de ne pas participer cette année. Voilà. Par contre, c'est la France. Eh oui, la France, c'est sa première participation et premier titre remporté.
C'est génial. Et alors, est-ce que comme vous, chaque pays met un peu du sien dans la paella? Vous nous dites que vous avez mis du sud-ouest avec du magret de canard, etc. Est-ce que, je sais pas, les Italiens, ils mettent un truc un peu italien, les Finlandais, un truc un peu finlandais?
Non, l'Italien. Alors oui, il y avait libre choix. Hein. Par exemple, le Finlandais a cuisiné une paella avec du renne. L'Italien est resté sur une paella aux fruits de mer. C'était pas une pizza paella, non du tout. Mais bon, en tout cas, chacun était libre de choisir son thème et ses ingrédients.
Et bon, et en plus, cette paella de champion du monde, donc d'abord bravo. On peut la goûter parce que vous continuez évidemment à travailler. On vous trouve où?
Alors, on peut la goûter. Alors, jusqu'à présent, elle n'était pas dans mes recettes parce que c'était une paella que moi, on va dire, entre guillemets, j'ai inventée. Mais à partir de maintenant, bien sûr, on peut la goûter. Moi, je suis sur Barbantane, un petit village près d'Avignon. Et je suis tous les samedis matin, justement, sur la place du marché de Barbantane. Et ensuite, pour tous les événements privés. Donc, je cuisine à domicile, si les conditions le permettent. Et voilà. Sinon, tous les samedis matin, à Barbantane. On est là.
Donc, samedi matin,
ah bon, on y va.
Tous au marché de Barbantane. Bravo en tout cas, super.
Merci beaucoup, bravo à vous, vous serez les bienvenus.
Avec plaisir, Eric, à samedi alors. Et muchas gracias, les amis.
Hasta luego.
Défait le monde. Bah non, pas.
Hasta la vista.
Pas demain en tout cas. Parce que demain, le vendredi à 18h40, on refait les
régions.
On vous retrouve lundi dans RTL Soir, les amis.